Al medio, Mayo Castel Oriental. J'ai reçu totalement ce que tu
dis. Toi, t'es libre de combattre, aucun gangage. Je pense qu'on peut, en pensant les deux, la crise de mépris vivant, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'être de nôtre dans ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs, votre magazine de débats citoyens. Le parti Lumumbiste Unifié Palou opte pour un État unitaire fortement décentralisé. Cette option a été levée lors des ateliers organisés du 7 au 8 novembre dernier en marge de la célébration du cinquantenaire du parti. Ces choix, selon certains observateurs, relancent les débats sur la nomination claire et définitive de la forme de l'État pour la RDC. Quel regard portez-vous sur cette question? Vous voulez participer à ces débats? Rejoignez-nous à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien appelez-nous au 081 890 63 15. Nous sommes là pour vous tenir compagnie. Paul Badianiam est à la technique. Faisa Julie Bongonda à la réalisation de ce programme coordonné et présenté par J.R. Nguembo sous la supervision de Léonard Moulamba. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Nous avons dans ce studio M. Steve Kivuata qui est cadre de Palou. Oh, bonjour Steve.
Bonjour monsieur.
Voilà, nous sommes avec vous et la thématique par rapport à l'option levée au niveau de votre parti, on peut dire que pour la dernière fois, le Palou vient de confirmer sa position qui a toujours été depuis la nuit des temps, celle de prôner pour un État unitaire fortement décentralisé.
Oui, évidemment, et heureusement que vous l'aviez corrigé, ce n'est pas lors des ateliers du 51 qui sont organisés que le Palou a opté pour la forme de l'État unitaire fortement décentralisé, mais c'est depuis la nuit des temps, depuis même sa création le 22 août 1964, que le Palou a toujours opté pour la forme de l'État unitaire, quitte à ce que dans son organisation administrative, que l'État soit décentralisé et fortement décentralisé.
Mais ce n'est pas la position de votre plateforme, parce que Palou fait partie de la plateforme de la majorité. Aujourd'hui, dans la majorité, ce n'est pas ça l'esprit et la lettre de l'option de la forme de l'État.
Mais la forme de l'État, elle est constitutionnelle. Je ne sais pas s'il y aurait une révision constitutionnelle qui tendrait à changer la forme de l'État. Dans la Constitution, on dit clairement que l'État est unitaire, uni et indivisible.
Dans la Constitution, dans l'exposé des motifs, il est dit, la RDC, c'est un État uni. Mais on n'a pas parlé d'unitaire.
Mais c'est ça,
ça c'est l'interprétation.
C'est ça la caractéristique. Donc, mais quand vous essayez un peu d'analyser différentes constitutions
de le monde,
voilà, même, non, le labour dans une vision du fédéralisme, mais dans le monde, quand il y a la caractéristique uni et indivisible, ça rapporte généralement à la forme de l'État unitaire. Parce qu'en principe, le fédéralisme, c'est vrai, ça veut dire mettre ensemble. Mm-hmm. Mais quand ce qui est ensemble déjà, on veut le fédéraliser, généralement, c'est un fédéralisme de désagrégation, c'est-à-dire de division. C'est la forme de l'État qu'a opté pour la Belgique. La Belgique était unie, et par après, ils se sont divisés. Ce n'est pas la vision du fédéralisme américain, où ce sont 13 États qui n'étaient pas ensemble, mais ils se sont mis ensemble. Ça, c'est la forme que l'on peut encourager. Mais la RDC a toujours été unie et pensée à un fédéralisme. Oui. Généralement, c'est une division. Et nous, le Palou, depuis les années 60, à travers Lumumba et Antoine Gizenga, on a toujours considéré qu'adopter le fédéralisme, ça peut facilement nous amener à une division, parce que vous savez que déjà en 1960, il y avait plusieurs sécessions.
Oui, mais c'est vrai, dans l'exposé de motifs, comme on l'a dit, on a bien parlé des unités du pays, mais quant à la division ou le fonctionnement de territorial ou de la centralisation, on parle d'un pouvoir
en fait, il y a des compétences qui sont cédées aux provinces et l'exclusivité des pouvoirs centrales. Alors là, je crois que si vous nous amenez dans les fortements décentralisés, c'est comme si on était en train de dépouiller le pouvoir central de toute sa substance.
Non, pas nécessairement. Pas nécessairement.
Parce qu'il faudrait carrément réviser la Constitution.
Non. Donc, fortement décentralisé, ça rejoint plus ou moins la vision du Constitution actuelle, qui voudrait certes que l'État reste uni et indivisible, mais du moins au niveau de province, qu'on puisse leur déléguer du moins quelques compétences, que l'on a dit plus précisément dans la Constitution, des compétences législatives et quelques compétences exécutives, mais du moins le pouvoir central dispose de plusieurs compétences et le pouvoir central peut piloter la gestion du pays. Mais au niveau de province, pour amener quand même un certain développement harmonieux, on peut déléguer un certain nombre de compétences, mais c'est pas seulement au niveau de province, même au niveau des ITD actuellement, que sont la ville, la commune, les secteurs et la chefferie, on accorde encore un certain nombre de compétences sous tutelle bien sûr de gouverneurs de province pour faire en sorte que l'administration soit la plus proche des administrés. Et c'est de cette façon-là qu'on peut assurer un développement.
C'est pas un jeu de mots, jeu de termes, fortement décentralisé, le fédéralisme.
Je serais d'accord, complètement d'accord avec vous, parce que vous vous souviendrez même la constitution de Louis-Labour dont vous aviez parlé en 1964.
À cette époque-là, il y avait deux formes, il y avait deux constitutions. La constitution de Louis-Labour qui prenait le fédéralisme, et il y avait un autre, en fait, qui n'est pas, en fait, qui ne partageait pas cette option-là.
Non, c'est-à-dire c'était adopté. Hein. C'est vrai que les nationalistes, la constitution de Louis-Labour a été élaborée sans la présence de nationalistes lumumbistes, eux qui étaient généralement unitaristes, d'où à Louis-Labour, Tshombe et M. Kassavou, des fédéralistes par nature, ont pu mettre dans la constitution de Louis-Labour le principe du fédéralisme, mais même là, vous avez vu que les États fédérés, on ne les appelait pas comme tels. Donc, on est toujours conscient au Congo que le fédéralisme, on doit y aller petit à petit et voir le contexte de l'époque. Mais jusque-là, le principe qu'on a adopté actuellement, c'est un peu comme on dit le professeur Vundoa ou plusieurs fonctionnaires, c'est un peu dans l'antichambre du fédéralisme, c'est-à-dire on est au milieu.
Mais les contextes sociopolitiques actuels, est-ce que vous pensez que la forme de l'État que le Palou, en tout cas, continue à prôner aujourd'hui, un État unitaire fortement décentralisé, serait l'idéal dans les contextes actuels?
Est-ce qu'en politique, on peut parler de l'idéal? Généralement pas. Mais du moins, ça serait le moins mauvais de système actuellement. Si on peut bien gérer, si au niveau de chaque échelon de l'État, on a de bons animateurs, eh bien, les choses peuvent se passer de la meilleure façon qui soit. D'où d'ailleurs, dans nos ateliers, on est en train d'insister sur le parti politique qui doit jouer leur rôle dirigeant, parce qu'on ne peut pas comprendre que les gens sentent comme s'il y avait un problème entre le pouvoir central et les provinces en ce qui concerne par exemple la retenue à la source. Parfois ce sont le même parti politique qui gère à chaque échelon, donc c'est une question de vision politique au sein de partis politiques, d'où le parti politique doit avoir des idéologies politiques, et les idéologies politiques c'est ne que une vision de gestion de l'État. Et si les partis politiques sont bien organisés, vous verrez que le développement sera assuré le plus rapidement.
Et le Palou ne craint pas donc qu'aujourd'hui, cette option ne puisse pas rencontrer l'assentiment d'autres partis qui constituent la majorité au pouvoir actuellement?
Actuellement, je pense que la plateforme, la majorité présidentielle qui est en accord, en alliance avec le Palou, dans leur majorité, ils sont des unitaristes. Je ne crois pas qu'il y ait assez de fédéralistes, il y en a quelques-uns, mais dans la majorité, nous sommes des unitaristes. Et bien sûr, nous prenons la forte décentralisation, qu'aujourd'hui qu'on appelle les régionalismes politiques, afin d'assurer un développement à la base.
081-890-6315 pour votre intervention en direct. Et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Parole aux auditeurs pour participer 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Vous avez posté vos messages sur notre page Facebook. On va découvrir ces messages dans un instant. Sansi et Moli Po, merci. Jires Kitango de Kalemi, Jack Biaki, et Eni Magaruka de Bukavu, Fabrice Mavuja, André Mugeni, Willy Bakundi Willy, ainsi que Victor Wakandwa de Kindu. On n'oublie pas Emmanuel Nué, Emmanuel de Bukavu, ainsi que François Kanyama. Vous êtes en ligne, Omar. Bonjour et bonne arrivée sur les ondes de Radio Capi. Omar, vous êtes avec nous, vous êtes en ligne. Voilà, on prend plutôt Franck qui est à Vienne. Franck, bonjour.
Bonjour, monsieur Gère, bonjour à l'invité, aux amis avec qui nous allons nous échanger.
Voilà, Franck, vous êtes à Vienne, en Autriche.
Oui.
Voilà, vous avez dit, lorsque vous avez posté vos messages, votre message sur votre Facebook, que disons, si on ne sait pas placer à côté de la dite forme de l'État une vraie volonté politique manifeste visant avant tout les biens suprêmes de la nation et de tous, ça sera un effort vain.
Oui, je crois que je préfère d'abord vous envoyer mon point de vue, comme ça quand j'interviens, je peux m'expliciter.
Voilà, allez-y.
Je suis de près, comme vous le savez, ce qui se passe chez nous. Je m'arrange aussi pour participer au débat citoyen. J'ai suivi avec attention ce qui se passe au sein du panneau, j'ai suivi leurs interventions. J'essaie de suivre attentivement la contribution de votre invité. Quelque part, je suis d'accord avec lui, mais aussi je m'éloigne un peu de ce qu'il vient de dire. Moi, quand j'interviens, je préfère toujours me servir de certaines analogies. Monsieur le journaliste, je crois que la loyauté de la gestion d'une maison ne dépend pas seulement de la forme de son architecture. La maison, sa forme, son architecture peut être bonne, élégante, mais si cette maison est gérée par des gens qui ont une conception, une perception de vie assez erronée, la belle architecture n'apportera pas grand-chose. On verra seulement une bonne architecture sans qu'il y ait un peu de rigueur au sein de cette maison. Alors, essayez un peu de placer cette analogie, de la transposer au niveau de la conception de politique congolaise. Je trouve que nous nous battons inutilement pour rien pour chercher à mettre en place telle ou telle autre forme. Moi, je crois que le débat consisterait de manière sincère à voir la qualité d'homme dont la RDC a besoin pour se développer. Nous savons que dans le monde, il y a encore des monarchies. Ici en Europe, dans la plupart des pays, c'est encore la monarchie. Mais au moins, quand on sait qu'on doit respecter certaines normes, certains principes démocratiques, on peut aller de l'avant. Donc moi, je trouve que nous cacher derrière la forme de l'État, ça c'est vraiment passer à côté de l'essentiel. C'est vrai qu'on a besoin d'avoir une forme de l'État qui puisse être susceptible aux besoins de la population. Mais monsieur le journaliste, avec par exemple une assemblée nationale et des assemblées régionales, et il y a des majorités numériques qui parfois tablent à base de complaisance. Les débats de fond n'ont jamais eu lieu. Vous pensez vraiment que si on doit mettre aujourd'hui un État décentralisé ou bien un État unitaire, c'est seulement ça qui fera changer les choses. Moi, je crois que nous devons poser la question à nos politiciens. Quelle conception politique ont-ils? Quelle motivation politique ont-ils avant de se lancer dans la politique? Donc, on ne vient pas seulement en politique pour s'enrichir. On ne se fait pas passer pour un politicien parce que on peut argumenter, mais la politique a une mission. C'est d'abord de servir, de construire sa cité et de chercher à promouvoir le développement de cette cité. Et on part de la cité, on parle de la maison de la cité, pour l'étendre au niveau du pays et de la nation. Mais quand nous voyons ce qui se passe chez nous, on est encore loin de cet objectif. Et moi, je trouve que, pour le moment, comme il s'agit d'un débat citoyen, nous devons aussi arriver à nous dire certaines vérités en face entre les citoyens congolais. Moi, personnellement, je trouve que nous devons militer pour que ça aille de l'avant, mais tout en militant pour que ça aille de l'avant, nous devons aussi savoir que la classe qui nous dirige ne répond pas encore à toutes les attentes de la population. La classe qui nous dirige est là, mais cette classe-là se moque même de ce peuple qui leur donne tous ces mandats pour aller les représenter à ce niveau-là. Alors, qu'on cesse un peu de penser que seulement cette forme serait la mieux appliquée pour la RDC parce qu'elle est trop vaste, mais les États-Unis, c'est quand même aussi vaste. Pourquoi le fédéralisme est respecté là-bas? L'Allemagne, c'est aussi un pays vaste. C'est
le fédéral.
Pourquoi chez eux ça marche? En France, ils ont un autre régime par rapport à l'Allemagne, mais ça marche aussi.
Unitaire.
Moi, je crois que le problème, c'est au niveau de l'homme. Nous devons arriver à questionner l'homme congolais. Le politicien congolais, il a quelle conception de la politique? C'est d'abord se servir ou servir sa nation. J'ai dit et je vous remercie.
Merci beaucoup. Nous avons des réactions, par exemple, des Choukou Milingwa à partir de Lubumbashi. L'idée de revoir la forme de l'État en un État unitaire et fortement décentralisé paraît beaucoup mieux car ça peut permettre d'abord sur le plan administratif de rapprocher davantage les gouvernants aux gouvernés et concourra à la réduction des lenteurs administratives au sein des services publics, mais qui serait cet homme politique qui pourra incarner cette vision. La Chouk rejoint votre point de vue, Franck. Et le Palou lui-même, avec leurs autorités, les responsables, n'ont pas pu appliquer la Constitution dans son format actuel. Donc, ce qui veut dire que les discours qu'ils tiennent aujourd'hui, c'est un discours creux. Voilà. Merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé de Vienne, en Autriche. Nous prenons Maurice qui est à Kinshasa. Maurice, bonjour. Maurice, vous êtes avec nous, bonjour. Voilà, je crois qu'on a... Maurice, bonjour.
Bonjour, j'ai un bien bon.
Voilà, on a eu des confusions sur la ligne. Ben alors, Maurice, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Voilà, votre point de vue, Maurice. Vous venez de suivre Franck tout à l'heure, Maurice. Voilà, Maurice, est-ce que vous êtes avec nous? Désolé, en tout cas, là, vous êtes un peu distrait, je crois, la réalisation va nous aider à vous retrouver... Pour vous accueillir et recevoir aussi votre contribution dans cette émission. On va prendre plutôt Omar qui est à Kinshasa également. Omar, bonjour.
Bonjour, J.R. Longombe. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Pacifique.
Vous avez la parole, Omar.
Merci, J.R. du verbe par vous m'adjuger. D'entrée de jeu, je voudrais réagir par rapport à ce qu'elle invitait à dire sur la différence entre le fédéralisme et l'unitarisme. En principe, il existe une différence, parce que lui dit que c'est presque la même chose.
Non, non.
C'est vrai que dans tous les deux cas, la philosophie, c'est d'autonomiser les entités locales. La différence, c'est que dans un État fédéral, les entités locales disposent de leur constitution, alors que dans un État unitaire décentralisé, les entités locales n'en ont pas. Et deux, dans un État fédéral, les entités locales ont des pouvoirs exécutifs, judiciaires et législatifs, alors que dans un État unitaire, les entités locales n'ont que les pouvoirs législatifs et exécutifs. C'était juste un avis technique par rapport à la différence entre les deux.
Merci beaucoup.
Maintenant, par rapport à la proposition sur le Palou propose qu'il y ait un État unitaire fortement décentralisé.
Qui a toujours proposé. Et maintenant, lors de l'atelier, ils ont trouvé le temps de marteler encore davantage et de lever davantage cette option.
Oui. Mais moi, je pense que cette forme existe des AGR. C'est quoi un État unitaire fortement décentralisé? C'est la forme de l'État dans laquelle l'État accorde une autonomie administrative et politique aux entités locales. C'est-à-dire, l'État ne se limite pas à autonomiser administrativement les provinces, mais leur accorde aussi la possibilité d'avoir des institutions politiques comme la province et l'Assemblée, comme l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Et qu'est-ce qui peut fonder cette régie? C'est l'article 2 de la Constitution, qui accorde la personnalité juridique aux entités locales. C'est l'article 3, l'article 196, et ça, non, non plus. Je me demande, est-ce que le Palou demande qu'on mette en œuvre cette forme ou le Palou demande qu'elle puisse être créée? Parce que ça existe. On l'appelle autrement l'État régional ou le régionalisme constitutionnel. Cette forme existe déjà. Et à mon avis, il faudra que le palu demande qu'elle puisse être mise en œuvre. C'est quoi la difficulté, JR? De façon expressis verbis, la pension ne détermine pas la forme de l'État.
Oui.
On sait qu'il n'y a pas de certains critères. Et les critères principaux, c'est quoi? Comment est-ce qu'on reconnaît un État unitaire fortement décentralisé? Lorsque la Constitution ne se limite pas à donner aux provinces et autres entités décentralisées la seule autonomie administrative, mais elle rajoute l'autonomie politique, c'est-à-dire la capacité d'avoir leur propre parlement et leur propre gouvernement. Je voudrais vraiment être pédagogique. Et moi, je pense que le palu doit reformuler sa proposition pour dire l'État unitaire fortement décentralisé existe déjà. Il faudra plutôt le mettre ou la mettre en œuvre. Ça, elle présente beaucoup d'avantages. C'est quoi le premier avantage? L'avantage d'opérer la division du travail en décongestionnant les affaires de l'État. Deuxièmement, dans un État unitaire fortement décentralisé, on favorise le développement harmonieux de pays en tenant compte des particularités et des sensibilités locales. Et troisièmement, cette forme de l'État permet une gestion transparente basée sur le contrôle à partir des organes locaux. Voilà un peu de mon ce que je peux dire. Et moi, je pense que ce que les palous devaient constater, c'est que les textes ont fixé cette forme, mais la réalité sur le terrain pose problème. On a prévu qu'il y ait 25 provinces qui encore pensent jusque-là. Et deux, cette forme de l'État n'existe que sur le plan textuel. Car lorsqu'on fait un débat d'idées, un débat comparatif entre le texte et la réalité sur le terrain, il y a une dichotomie qui se dégage. Par exemple, on sent l'ingérence du pouvoir central sur les activités des provinces, même dans les domaines qui sont uniquement réservés aux provinces.
Oui, Omar, parce que, je ne sais pas, avant de chuter, certains observateurs pensent que, c'est vrai, dans l'évolution, quand nous nous situons dans les temps et dans l'espace, on se rend compte que notre pays a toujours opté pour l'unitarisme, mais cela n'a pas donné les résultats. Malgré l'unitarisme, on a des guerres successives, on a des problèmes, et il y a des défis à relever du côté de l'Est du pays. Pourquoi ne pas essayer aussi le fédéralisme? Ça, c'est le point de vue de certains observateurs et d'autres partis politiques qui exercent.
Merci, J.R. Le problème de la forme de l'État, c'est aussi par rapport aux réalités. Le droit n'a des sens que si c'est adapté aux réalités de chaque société. Nous n'avons pas encore une civilisation politique élevée. Je ne pense pas que le Congo soit prêt pour le fédéralisme. Car je vous dis, J.R., que dans les États, c'est à vocation fédérale. Les États fédérés disposent d'une constitution.
Mmh.
Mais si on essaie d'appliquer cela en Afrique, ça provoquerait des États de séparation et on aurait un Soudan Sud, un Nord, un Soudan Sud. Donc, le peuple congolais, le peuple africain, n'ont pas encore une certaine civilisation pour appliquer le fédéralisme. Voilà pourquoi nous voulons l'unitarisme où le seul centre d'impulsion demeure l'État central, mais qui décentralise administrativement les provinces. Voilà, à mon avis, la réponse que je donne. Et je suis rapidement avec mes propositions pour dire la décentralisation existe. L'État unitaire a déjà été institué fortement décentralisé.
Par la Constitution.
Il y a un problème du respect des normes.
La mise en œuvre, les mesures d'application pour accompagner. Voilà. Mais je crois que déjà le gouvernement a levé l'option. Oui, Maurice, je crois que le gouvernement a levé l'option parmi les articles qui vont subir une révision. Je crois qu'il y a aussi cette question sur la décentralisation qui doit être revue et corrigée. Je ne sais pas, hein, peut-être on va faire le débat avec notre invité qui est là pour nous éclairer là-dessus, pour voir ce qui doit être fait. Alors, merci beaucoup, Maurice, d'avoir appelé des Kinshasa. On va prendre Maurice, parce que Maurice est déjà en ligne. Maurice. Voilà. Alors, on va prendre plutôt Dieu merci à Manono et à Arsène au Burundi. Arsène, vous êtes avec nous au Burundi?
Bonjour, je suis très fier de foot et 565.
Voilà, vous intervenez depuis Burundi. Arsène, quel est votre point de vue?
Bon, concernant mon point de vue, bon, en fait, je suis pour le fédéralisme dans notre pays. Parce que vous savez que. Bon, lorsqu'il y a un indice de l'État fédéral, bon, on suppose qu'il y a un peu de développement. Bon, mais pour le contexte actuel, vraiment, c'est un peu fort qu'on effectue dans notre pays. Parce que vous savez, notre pays, quel que soit tout le monde est en train de dire aujourd'hui, bon, le président de la République ne fait pas aucune chose. Quel que soit aujourd'hui, on est en train de ne pas accepter ce que le président de la République est en train de faire, mais quand même, regardez d'abord le contexte actuel de notre pays. C'était Mobutu. Mobutu, il a fait 30 ans au pouvoir, il n'a rien effectué. Kabila Mouzé est entré au pouvoir, il n'a pas eu le temps d'effectuer. tout ce qu'ils voulaient faire aux Congolais compte tenu des policiers des Occidentaux. Aujourd'hui, Kabila, s'il est entré au pouvoir, il y a eu des conflits, il y a eu des mutineries, il y a eu des RCD, il y a eu des MLC, mais quand même, ce que nous devons nécessairement encourager à notre pays, c'est changer d'abord de mentalité, de ne pas voir, moi je suis de telle région, moi je suis de telle tribu, mais lorsque nous finirons avec les histoires de tribalisme, lorsqu'on pouvait nécessairement atteindre un niveau là où nous sommes développés, c'est pas mal de cette le fédéralisme. Regardez, dans notre pays, presque tous nos provinces sont bien équipées, Sud Kivu, Nord Kivu, Maniema, dans Congo, là, à l'Équateur, donc nous avons tous les atouts. L'indice de fédéralisme, ça prouve un développement, mais malheureusement, notre armée est divisée. Si nous, les gens de l'Est, nous acceptons le fédéralisme, vous savez, le Rwanda et le Burundi et l'Ouganda n'acceptent pas que l'Est soit développé, n'acceptent pas que le Congo soit développé. Mais à mon point de vue, vraiment, pour le fédéralisme, c'est bon, mais qu'on attend d'abord qu'on organise des élections 4 à 5 fois, on pouvait arriver.
Bon, voilà, il faut qu'on prenne notre mal en patience, parce qu'il ne faudrait pas qu'on aille vite en besogne, selon vos propos, hein, Arsène. Pour vous, vous optez pour le fédéralisme, hein, vous allez donc à l'option levée par le Palou. Merci beaucoup, Arsène. On va prendre le dieu de Dieu merci qui est à Manono. Dieu merci, bonjour. Dieu merci, vous êtes
bonjour,
avec
nous. Bonjour, cher. Bonjour.
Voilà, vous êtes déjà en direct de Dieu merci. Quel est votre point de vue?
Oui. Moi, je te donne mon point de vue par rapport à la décentralisation. Pour moi, c'est la décentralisation qui est plus favorable. Pourquoi? Vous savez que on voit d'abord. Je vais donner l'exemple pour certains territoires, pas seulement pour notre territoire. On constate maintenant une substitution politique. Et pourquoi je vais m'appuyer plus à celui qui a réagi avant moi, cet auditeur de Lumbashi. Vous voyez, aujourd'hui, on donne le pouvoir aux députés pour aller nous représenter au niveau du Parlement. Et ils ne reconnaissent pas qu'il y a peut-être des gens qui les ont envoyés. Maintenant, c'est eux qui décident à leur niveau. Il n'y a même pas vraiment à rentrer à la base pour donner des comptes rendus, soit c'est l'affaire de la restitution. Ça, c'est de 1. De 2, vous allez constater ce que j'appelais vraiment substitution politique. Il se substitue à nos voix, au pouvoir que nous leur avons donné. Ça, c'est de 1. De 2, GR. Avec la décentralisation, on va élire. Le Parlement est local. Les parlementaires connaissent les difficultés d'une majorité, donc les difficultés locales. De 3, GR. Vous allez trouver aussi, il y a le problème de distance. Il y a le problème de distance. Il y a par exemple le pont qui doit s'effondrer à Manono ici. Pour que le problème arrive à Kinshasa, on trouve des solutions, on prend des décisions, ça va demander combien de temps. Tout ça, ça retarde le développement. Ça retarde le développement. Je peux ajouter peut-être pour terminer, vous allez trouver le problème de loi ici. Il y a des lois qui viennent de Lubumbashi, de Kinshasa, dans le Parlement là-bas. Mais vous trouvez qu'il n'y a pas de restitution. Il n'y a pas de restitution. C'est comme vraiment il y a des impositions. Pour que le député rentre dans les vacances parlementaires, signifier ses lois dans leur base, c'est tout un problème. C'est pourquoi moi j'ai souhaité plus vraiment que les Congolais acceptent, optent plus pour la décentralisation. Parce qu'il y a des transferts de pouvoir, disons, qui sont à la base. Et même la base pourra se retrouver et contribuer au développement des journalistes.
Merci beaucoup, Dieu merci. On va terminer cette série des auditeurs avec Maître Papi qui est à Kinshasa. Maître Papi, bonjour.
Bonjour, Maître Gilles. Bonjour à l'invité.
Bonjour.
Voilà, Papi Kassema, vous avez la parole.
Oui, merci, Maître Gilles. Je suis d'avis avec les autres intervenants, tels que Monsieur Omar. Donc, le confrère Omar est celui qui nous appelle de la diaspora.
Oui,
la forme d'État telle que prônée par les Palous ou prédite par la Constitution est vraiment une bonne forme. Mais avant que cela soit mis en vigueur ou soit effectif, il faut qu'on puisse remplir un certain nombre de préalables.
parmi ces préalables, monsieur Jure, pour ne plus reprendre ce que les autres ont déjà dit, il faut qu'il y ait une identité commune de tous les Congolais. Parce que vous savez, si on mettait en vigueur cette forme d'État aujourd'hui, nous allons de plus en plus nous séparer, nous diviser d'un moment à l'autre, parce que vous savez, les Congolais n'ont pas encore cette,
voilà,
cette volonté, soit cette identité ou une identité commune. Mmh. Alors, il faut encore mettre fin au conflit communautaire, parce que dès lors que le conflit communautaire ne prenne pas fin, j'ai doute fort que cette forme d'État puisse avoir des résultats positifs. Il faut encore, M. J.F., qu'il y ait l'assainissement de l'administration technique. Parce que vous savez, si l'administration n'est pas assainie, si l'administration a des désordres comme nous le vivons maintenant, cette forme d'État ne serait qu'un bout de une goutte d'eau dans l'eau. Alors, c'est mieux que les dirigeants, soit le gouvernement, puissent mettre en place, soit puissent plutôt respecter tous ces préalables et remplir tous ces préalables avant
pour avoir le résultat. Donc, merci beaucoup, papy.
Sont profitables aux Congolais, sinon nous risquerons toujours de nous.
On passera à la lézère. 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kevin Couté sur Radio Capi.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi et si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Nous avons dans ce studio Steve Kivuata qui est cadre de Palou, voilà, qui est en train de modérer par rapport à cette émission. Nous revenons à vous, Steve, voilà, vous avez suivi les réactions des uns des autres, en tout cas dans cette deuxième série. Comment vous réagissez?
J'ai très bien suivi, mais tout de suite, je voudrais corriger un certain nombre de choses, parce que le camarade Aubard a dit des choses pertinentes, mais malheureusement, selon lui, il considère que j'ai dit que la forme unitaire est le fédéralisme, donc la forme de l'État fédéral, c'est la même chose. Je ne peux jamais dire ça, surtout quand je prends ma casquette de constitutionnaliste, je ne peux jamais les dire. Il y a bien sûr des différences qu'il a bien soulevées, mais par rapport à la forme actuelle, il soulève assez mal, parce que nous sommes dans un État unitaire régionalisé, que nous on dit fortement décentralisé. Ça veut dire, au niveau de province, c'est la décentralisation politique, parce qu'on confie aux provinces la compétence législative et la compétence exécutive, qui sont des compétences politiques, mais au niveau du ZTD, le troisième échelon du pouvoir, on ne confie que des compétences administratives. Donc, je connais assez bien la Constitution, qu'il soit tranquillisé. Mais effectivement, il y a des problèmes d'application. Quand il dit le problème, d'ailleurs, dans nos ateliers, on ne dit plus découpage parce qu'en réalité, ce sont les anciens districts qu'on a transformés en province, mais qui ne sont pas jusque-là effectifs. Oui, c'est un problème, mais il doit aller loin, parce qu'on doit éviter de mettre en place une politique qui crée de problèmes, plus de problèmes que sans en résoudre. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on va très rapidement avec les 25 provinces, à un certain moment, on va se rendre compte qu'il y a des provinces qui ne sont pas viables. Il y aura des provinces où même les institutions provinciales vont manquer de bâtiments. Mais malheureusement, ils vont créer beaucoup plus de personnel politique, à telle enseigne que le peu d'argent pour que ça aille au développement, ça ira dans le paiement de salaire. On a déjà ces problèmes au niveau central, où on constate que le budget va dans sa grande majorité pour le fonctionnement des institutions. Alors, ça ne serait pas acceptable que la même chose puisse se répercuter. Alors, je pense, dans la révision constitutionnelle de 2011, on a prévu une loi de programmation. Peut-être s'il a des idées, il peut dire telle province, parmi les 25, peut déjà être mise en place parce que ça réunit le point. Mais effectivement, je suis d'accord avec lui quand il dit qu'il y a un problème d'application. Oui, le 40%. qu'on confie aux provinces la retenue à la source, c'est un problème. Mais là aussi, comment on doit l'appliquer? Parce que il peut se faire, prenons l'exemple d'une province qui est aux frontières entre des États. Par exemple, l'Équateur veut faire sortir le bois. Ça peut, à un certain moment, sortir par une autre province. Mais les droits de douane seront perçus par cette province-là. Est-ce que l'Équateur ne doit rien recevoir? Et c'est là où il y a une proposition concrète du Palou quant à ce. Je pense que le Premier ministre Mouzito, alors Premier ministre, a insisté sur ça. Donc, le Palou est dans le concret. Je n'ai jamais dit que c'est aujourd'hui que le Palou...
Oui, quand vous dites qu'il a insisté sur ça, mais qu'est-ce qui n'a pas marché pour que ça soit mis en œuvre, que ça soit effectif?
Mais
parce qu'il avait tout le pouvoir. Il avait tous les atouts, il avait la majorité, il avait tout, il pouvait faire passer ça. Comme aujourd'hui, il y a des consignes qui passent, il pouvait faire passer ça et profiter de cette autorité qu'il jouissait.
Je mets le fait qu'il ait eu tous les pouvoirs en UMA, mais je vous dis que le Palou existe toujours.
Donc,
nous sommes en pleine évaluation.
Vous me réjouissez quand j'avais dit que dans la majorité, il y a d'autres partis qui ne partagent pas l'option de l'État unitaire fortement décentralisé.
Pas forcément. Je pense que l'aspect 40%, peut-être que les autres ne le voient pas du même œil, surtout les provinces actuellement qui sont, disons-le, en vieux, mais plus riches que les autres, plus densiques que les autres. On sait, c'est les trois provinces. Donc, généralement, ce sont ces provinces qui sont contre. Mais nous, on met ça sur la table et les ateliers, c'est le moment où on est en train d'évaluer entre de la décentralisation. Maintenant même, il y a en direct, les gens suivent à la télé, comment on est en train de cogiter pour voir comment mettre en place une décentralisation qui soit la plus appropriée pour
ces recommandations seront appliquées où?
Les recommandations seront sûrement adressées aux institutions actuelles, dont le Palou est membre, mais malheureusement le Palou n'a pas la majorité, mais on va apporter la réflexion. Voilà. Mais oui, il y a le camarade de Vienne, il a dit quelque chose d'important, je l'ai dit au début, peut-être qu'il ne m'a pas suivi. Le problème de mentalité dans une république, ça doit être résolu par deux partis politiques. Ce sont là les instruments de gestion de l'État. On ne doit pas le rechercher ailleurs, on ne doit pas rechercher les hommes. Et le peuple a le pouvoir de sanctionner le parti politique. Et même nous, nous nous remettons en cause nous-mêmes le Palou. C'est la raison d'être de nos ateliers actuels. Donc il faut que le peuple joue son rôle et il faut que les peuples sanctionnent le parti politique qui ne savent pas jouer leur rôle parce que dans la politique, on ne recherche pas de l'intérêt.
C'est comme déjà un auditeur qui a émis quand même son point de vue par rapport à d'ailleurs à votre cinquantenaire qui dit alors aujourd'hui, c'est vrai, le Palou a eu le temps, n'a pas su appliquer la Constitution et les responsables de Palou n'ont pas su également réformer même l'administration publique, en tout cas leur bilan pour eux, en tout cas ça c'est Chouk Mouigwa, le bilan pour le Palou d'abord est désastreux. Je pense que certains partis politiques qui partagent en fait la même idéologie que Palou tombent aussi dans le même panneau, donc nous attendons aussi le 2016 pour sanctionner. Voilà, donc vous avez rejoint.
Non, c'est que on ne peut pas, c'est ça la démocratie, on doit accepter la contradiction. Je ne vais pas me vouer aux hégémonies pour ça, mais du moins, il n'a pas été précis. Quel article de la Constitution n'a pas été appliqué par le Palou?
L'affaire administrative et parle de l'administration. Je crois que c'est
la rapport avec l'administration. Nous avions amené des réformes. Et en ce qui concerne l'applicabilité, nous avions posé des problèmes de fond.
Mais qui n'ont pas été suivis.
Qui n'ont pas juste été suivis. Nous sommes toujours dans la majorité. Nous pensons qu'à un certain moment, on va suivre le Palou.
Voilà. Prince est à Kamina, Paul est à Lubumbashi. Prince, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, M. Zier.
Vous avez la parole. Votre point de vue, Prince.
Mon point de vue, M. Zier, nous avons le plaisir réel de vous dire sous la présentation. Nous avons la merci de constater un pays comme celui de Nord, que les juristes dépassent beaucoup les modes de gestion que nous pouvons utiliser au Congo. Néanmoins, je voulais téléphoner aux grands auditeurs.
S'il vous plaît, Prince, est-ce que vous pouvez vous éloigner un tout petit peu de votre poste récepteur parce que ça fait un mauvais retour à l'antenne?
je suis très loin de mon poste récepteur.
Alors là vous êtes où? Dans une maison, à l'intérieur?
Non, à l'extérieur.
À l'extérieur, dommage, donc ça doit avoir un problème au niveau de téléphone. Alors, allez-y, on va fournir quand même des fonds pour suivre religieusement ce que vous êtes en train de dire.
D'accord, je disais que je voulais simplement rappeler à nos auditeurs que les modes de gestion des primes, c'est la décentralisation, car les avantages et les inconvénients. Nous avons les grands juristes qui savent mieux analyser les modes de gestion et les avantages et les inconvénients. Mais la décentralisation, il résulte que quand bien même il rapproche des dirigeants aux dirigés, mais il a des inconvénients, mais face à la population, il conduit à un détournement au gabégisme de masses d'argent. Et comme le Congo, nous avons les gens qui aiment beaucoup détourner d'argent, et puis avec ces modes, comme si on pouvait. C'est une autorisation tacite aux dirigeants congolais pour s'amasser d'argent. Les informations nous disent que ce mode conduit au gabégisme, à une perte de masse d'argent. Nous voyons que le structuralisme était le bienvenu au Congo, jusqu'à la décentralisation.
Voilà, Prince. Est-ce que vous partagez l'avis de Franck Devienne, qui intervenait tout à l'heure, et qui, en fait, a dit, même dans son message qu'il nous a envoyé sur notre page Facebook, que seule la forme de l'État, seule la forme de l'État ne suffit pas pour penser au développement d'un pays. Est-ce que vous partagez cet avis?
Je partage l'avis de monsieur qui est à Vienne, là, puisque il connaît les inconvénients, les avantages qui résultent de la décentralisation. Notre pays ne sera pas développé par la décentralisation. Nous allons commencer à privilégier chaque jour, mais il n'y aura pas de résultats. Il fallait mieux changer les modes de gestion que l'État congolais puisse changer et voir pendant combien de temps nous avons utilisé la décentralisation.
Quels
sont les résultats escomptés?
Voilà, pendant combien de temps, c'est la question, parce qu'on sait que ces deux législatures, on est vraiment dans la décentralisation, de quelle forme, mais on va voir ça avec notre invité, parce qu'il s'agit là d'une préoccupation directe.
Nous avons des grands professeurs tels que les Nipouliens qui sont à Kinshasa, là, nous avions appris les droits, nous savons les inconvénients, les avantages, et les droits, les juristes, nous avons les conseillers qui sont prêts à la présidence, qui peuvent conseiller les présidents, qu'avec ces modes, nous n'aura pas développé notre pays. Alors ça, nous allons travailler pour les politiques, pour les politiciens congolais et non pour la population congolaise.
Oui, parce que si je comprends votre intervention, peut-être les non-dits, même à la Deuxième République, on était un État unitaire. Voilà, ça a donné des résultats que ça a donné après 42 ans. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans la même forme de l'État, ça ne donne rien. Pourquoi ne pas essayer? Je crois, vous voulez oser qu'on essaye notre forme de l'État. C'est ça, Prince.
Les Congolais aiment toujours copier-coller la décentralisation, sans pour autant savoir les inconvénients, les avantages. Alors on fait des mimétismes. C'est pourquoi il faut quand même qu'il y ait des gens qu'il faut à la place qu'il leur faut.
Merci, Prince, d'avoir appelé des Kamina au Katanga. On va prendre Paul qui est à Lubumbashi. Mais les temps, comme il s'agit là d'une préoccupation directe de Prince, alors Steve, disons, comment vous réagissez par rapport à la préoccupation de Prince?
Je pense que cette préoccupation est légitime.
Mais deux législatures, la même forme, ça n'a pas marché.
Non, mais ça n'a pas marché. Est-ce que nous avions appliqué la décentralisation comme c'était prévu? C'est d'abord ça la question qu'il faut se poser. Maintenant, c'est à travers le faiblesse dans l'application qu'on peut trouver la solution. Parce que le fédéralisme, là j'insiste, en tant que nationaliste, en tant que lumumbiste, il y a même un orateur qui l'a dit, nous ne réunissons pas le critère pour maintenir les Congos unis tout en appliquant le fédéralisme. Mais du moins, nous avons des problèmes dans l'application. Quand il dit la décentralisation actuelle, il dit qu'il est juriste, j'apprécie beaucoup. Il y a deux formes de décentralisation, de mode de gestion de décentralisation que nous avions prévu dans notre constitution. La décentralisation politique au niveau de province et la décentralisation administrative au niveau de entités territoriales décentralisées. Au niveau de province, il faut savoir que jusque-là, les provinces n'ont même pas encore recouvré complètement leurs compétences. C'est peut-être seulement dans la ville de Kinshasa et au Bas-Congo que l'on a de régies financières de la ville. Et il y a plusieurs problèmes. Même nos députés provinciaux, ils n'ont été élus qu'une seule fois. Il n'y a même pas deux fois qu'ils ont été élus. Donc il y a des problèmes, même en termes de compréhension de la décentralisation actuelle. J'ai été un peu tout près de certaines provinces en tant que consultant. Je sais quels sont les problèmes. Donc, ce n'est pas encore appliqué comme tel. Et pour la deuxième forme de décentralisation qui est administrative au niveau du GTD, il n'y a jamais eu élection. C'est celle qui doit être prévue, qui est prévue pour 2015. Il n'y a pas d'élection. Le bourgmestre, jusque-là, et même les chefs des secteurs, sont en train de fonctionner selon l'ancienne loi.
Est-ce que ça remet une panacée, ces élections locales, municipales?
Bon, jusque-là, là, vous me posez la question
en tant que cadre du cadre. Les sénateurs sont... Bon, ça, c'est le point de vue des uns et des autres. Mm-hmm. C'est que tout le monde a constaté que nous avons des arriérés électoraux.
Ouais.
Voilà,
ouais.
Avec le Sénat, au niveau des assemblées provinciales, est-ce qu'aujourd'hui, les locales pourraient vraiment résoudre ces problèmes, ces déficits, ces défis?
Alors là, je dois mettre de pincettes parce que je dois parler en tant que scientifique,
ouais,
ou en tant que cadre du plateau. Si je dois parler en tant que scientifique...
Parce que nous voyons tous les aspects par rapport à l'option du Palou. Aujourd'hui, c'est vrai, quand les Palous montent encore au créneau pour rappeler aux autres, de voilà, c'est qu'ils pensent déjà aux avantages que le pays doit tirer de cette forme d'État.
Voilà. Donc, si je dois parler pour le Palou, je vous dis que jusque-là, nous sommes en train de cogiter au niveau des ateliers pour dire est-ce que c'est opportun d'aller avec la décentralisation telle que prévue actuellement, la décentralisation administrative, parce que la décentralisation politique est déjà en œuvre, est déjà mise en œuvre. Et en ce qui concerne la décentralisation administrative, attendez la fin des ateliers et vous aurez l'option du Palou. Mais au moins, il faut savoir que au niveau de l'accord d'Addis Abeba,
les ateliers prennent fin quand ?
Les ateliers prennent fin le 20 décembre. Mais déjà cette semaine, nous allons terminer avec la semaine sur la décentralisation. Les actes pourront sortir et vous pourriez savoir.
On va revenir encore le débat sur ça pour au fait donner l'occasion aux auditeurs de réfléchir ensemble avec vous, les Palous, par rapport à cette question. Voilà, nous rappelons que tous ces ateliers sont organisés en marge de la célébration du cinquantenaire de parti Lumumbiste unifié. Voilà. Paul, vous êtes à Lumumbashi. Bonjour et bonne arrivée sur les ondes de Radio Capi. On va terminer avec vous cette série des auditeurs. Paul, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, monsieur GR, bonjour à l'invité.
Vous avez la parole, votre point de vue, Paul.
Merci beaucoup de m'avoir donné la parole sur la Radio Capi. Ce que je voulais juste ajouter sur tout ce qui vient de se dire sur l'antenne, c'est que je donne totalement raison à notre invité. Je ne suis pas un politicien, monsieur GR, mais je suis congolais, je me associe à ce que c'est pas d'entreprise. Mais je vais vous dire ceci. Après qu'on la forme de gestion, le mode de gestion dans notre pays, moi je pense que l'État imiteur, comme je viens de le dire, est décentralisé, fortement décentralisé, c'est vraiment un bon mode, c'est une bonne forme de gestion. Dire aujourd'hui du fédéralisme dans notre pays, je vous dis, monsieur Chier, le Congolais n'est pas tellement mûr. Le Congolais n'est pas encore mûr pour ce mode de gestion. Il y a certaines personnes, quand vous parlez de fédéralisme, lui, il va directement à la sécession. C'est pour dire quoi? La plus grande chose qui réside sur cela, c'est l'homme, c'est le Congolais en soi. C'est-à-dire, la constitution dans l'état actuel, c'est vraiment, elle est très correcte. Mais le grand problème, M. Gilles, c'est l'homme. C'est nous-mêmes Congolais qui ne savons pas comment mettre tout cela au bénéfice de ce pays. C'est pourquoi vous allez voir même les députés qui ont été élus, ils sont à Kinshasa, ils sont dans les provinces, dans les assemblées, et ils se servent, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là-bas, pourquoi ils ont été élus. Moi, je pense que pour le moment, ce que le Palais est en train de faire, c'est vraiment une chose à encourager. C'est-à-dire, il faut revenir à la base, c'est-à-dire former le Congolais, faire en sorte que le Congolais puisse savoir ce qu'il doit faire, ce qu'il est censé faire, le Congolais. C'est ça le problème, M. Gère. Vraiment, la forme, bien le mode de gestion actuel, ce que prône le Palou, il est très correct. Mais le problème, c'est l'homme, la personne, l'homme. Et ici, chez nous, au Congo, et en RDC, ce que je peux dire, ne jamais songer à adopter le
ce qui étonne plus d'un, parce que Palou avait en tout cas la charge, la responsabilité de ce pays. Il avait tous les moyens possibles pour faire passer cette idée, mais à cette époque-là, il l'a pas fait, bien que bénéficiait de la majorité. Ben non, pourquoi se réveiller maintenant? Parce que c'est ça que les gens ne comprennent pas. Toutes ces résolutions, ben, ça va mourir dans les tiroirs.
Non, le Palou ne se réveille pas aujourd'hui. Si vous avez bien suivi, bon, je ne fais pas le porte-parole de votre invité, il est là, il peut bien s'expliquer lui-même. Mais ce que je l'ai bien suivi, c'est que le Palou, bien qu'il était aux commandes de ce pays, il n'avait pas les mains libres. Bien sûr qu'il était aussi dans la majorité, mais ce que je dis, c'est parce que l'homme, c'est-à-dire même ceux qui sont à la majorité présidentielle aujourd'hui, ils ne sont pas unis, c'est-à-dire ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Ils ne sont pas l'idéal de ce pays, c'est que le peuple veut.
Voilà, merci beaucoup, Paul. Là, vous donnez raison à.
Peut-être que l'alarme que le Palou est en train de grandir.
Voilà, demain, pour les peuples congolais, ils nous diront qu'ils avaient le pouvoir, ils ne l'ont pas fait. Et comme on a toujours une culture dans cette émission, les gens qui interviennent disent toujours pourquoi ils n'ont pas démissionné. À cette époque-là, quand ils n'étaient pas entendus, bon, ils ont laissé les temps pourrir. Merci beaucoup, Paul. Bien fait, vous êtes à Kindu. Bonjour, bien fait. Voilà, bien fait, vous êtes à Kindu, bonjour. Bon, on profite au Kazadi, qui est à Kinshasa. Kazadi ?
Oui, allô ?
Voilà, Kazadi, vous avez une minute. Quel est votre point de vue ?
Oui, mon point de vue, c'est qu'on doit soutenir le Palou. Il y a certains esprits qui sont là, ils ont de bonnes idées, mais ils n'ont pas à l'exprimer parce qu'ils ont tellement coincé, au point même qu'ils ne perdent rien faire. Alors, comme moi, dans mon province, en Chine, on sait que c'est un pays diamantifère qui a produit beaucoup de diamants à Tigaba, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas même une route qui est asphaltée. Donc, la décentralisation doit un peu pousser notre pays et d'aller en avant. Donc, le Palou a une bonne idée. Autrefois, le président répondait la fin de la récréation, mais aujourd'hui, ça continue. Il y a certains ministres qui bouffent l'argent. On les interpelle à l'Assemblée nationale. Ceux qui sont là aussi corrompus en passé, ils ne savent rien faire. Donc, c'est vraiment...
Voilà. Merci beaucoup. Prenez votre main à la patience. D'ailleurs, c'est le sujet que nous allons aborder lundi prochain, Kazadi, la motion de défiance contre les ministres Kitebi et Musungai, respectivement ministres délégués aux finances et ministres de l'industrie, étaient rejetés lors de la plénière du mardi 11 novembre dernier. Alors, pour certains observateurs, c'est un scénario connu d'avance. Comment vous réagissez? Prenez déjà rendez-vous avec nous pour lundi prochain. On va terminer cette émission, on va conclure avec vous, Steve Kivuata. Vous êtes notre invité, donc qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à l'option levée? Donc on doit attendre on puisse avoir les actes qui sont coulés, en tout cas sous forme de recommandations, pour que chacun puisse se faire une idée sur le travail qui est fait par Palou par rapport à toutes les questions de l'heure.
Ok, excusez-moi, donc généralement, il faut dire que la forme de l'État prônée par le Palou, ça reste l'État unitaire depuis 1964. Et le mode de gestion qu'il faut appliquer à cet État, c'est toujours la décentralisation qu'on dit qui doit être forte. Mais le faiblesse, ça existera toujours. Pourquoi? Quand ils disent que la majorité actuelle a des problèmes, nous ne disons pas autre chose. Au sein de nos ateliers, nous les disons, nous avons un problème d'idéologie politique. Et dans nos textes, dans nos 5 documents de base, nous insistons pour que dans notre pays, que le parti politique se regroupe en termes idéologiques. Dans la majorité, c'est vrai, on a des partis qui ont la même vision, la même idéologie politique, mais il y en a d'autres qui n'ont pas la même vision. Et nous, le Palou, on l'a toujours demandé. Ce n'est pas un problème d'être pour ou contre la majorité actuelle. Nous avions toujours dit ça. Et notre vision de partenariat avec le président de la République, c'était dans la vision de l'unité nationale, un, et deux, dans la vision de réunir la gauche nationaliste qui a été divisée depuis 1960. C'est pour cette raison-là qu'on insiste que nos partis politiques doivent être forts. Nos partis politiques doivent se définir sur le plan idéologique et même les coalitions majoritaires doivent se faire en termes d'idéologie politique. Et là, j'interpelle le peuple, parce que c'est le peuple qui doit sanctionner en dernier lieu. Et c'est le peuple qui peut, à travers le bulletin de vote, définir une majorité idéologique dans un État. Et nous, nous disons nous sommes nationalistes. Nous disons que nous sommes les unitaristes. Et nous le défendons fort et bien. Nous ne changerons pas. Et que le peuple, s'il trouve que c'est ça la bonne option, qu'il nous soutienne. Mais nous tiendrons compte de la recommandation. Nous allons, à la fin de nos ateliers, dire qu'est-ce qui ne marche pas avec l'actuelle décentralisation. Comment est-ce que, quelles sont les recommandations que le PAN nous donne? Eh bien, le combat politique, tellement qu'il est permanent, le PAN nous cherchons à obtenir la majorité parlementaire, nous allons, coûte que coûte, mettre ça en application. Nous n'avions jamais eu la majorité parlementaire, il faut qu'on se le dise.
Voilà, Steve Kivota, merci d'avoir accepté votre invitation. Nous rappelons que vous êtes cadre de Palou, parti le mouvement unifié, et merci d'avoir accepté votre invitation.
C'est moi qui vous remercie.
Allô? 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 Il ne répond pas.
C'est la fin de parole aux auditeurs. Merci à toute l'équipe qui a concouru à sa production. Merci à Eric Sidiakala qui a assuré la mise en onde de ce programme réalisé par Julie Feza Bongonda, coordonné et présenté par J.R. Mugembo sous la supervision de Léonard Moulamba. On se retrouve lundi prochain. Je l'ai dit, le débat tournera autour de la motion de défiance qui a été rejetée et que certains observateurs qualifient déjà de scénario connu d'avance. Comment vous réagissez? Et donc, prenez déjà rendez-vous avec nous. D'ici là, portez-vous bien et bon suivi des programmes sur Okapi.